L'EM, l'émission, sur Transistor, creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui plonge vos oreilles dans le Finistère. C'est la 9e saison. Le lundi, il y a 2 salves d'invités. Aujourd'hui, dans la première partie qu'on peut réécouter à 18h, mais aussi le lendemain à 8h30, on reçoit un partenaire de longue date et voisin, le Centre départemental d'archéologie. Ça faisait un petit moment. On va se pencher sur les conséquences des changements climatiques sur l'archéologie du Finistère. Si, si, il y en a. Il y en a déjà. L'UNESCO, elle a noté que les modifications des cycles de précipitation et de sécheresse, de l'humidité, du niveau des nappes phréatiques et par conséquent de la chimie du sol auront inévitablement une incidence sur la conservation des vestiges archéologiques. L'augmentation des températures aura elle aussi de lourdes conséquences sur ce patrimoine, notamment parce que ça se traduit par l'élévation du niveau de la mer. Alors certes, de ci de là, la fonte des glaces met au jour des vestiges intéressants, mais dans l'ensemble, les conséquences néfastes sont plus nombreuses que les bonnes surprises, car les changements sont rapides. Par exemple, les précipitations liées au phénomène climatique El Niño, qui va se multiplier avec le changement climatique, eh bien ces précipitations, elles détériorent l'architecture du site de Chan Chan, qui est un vestige de la capitale de l'ancien royaume Chimú au Pérou, parce que c'est une cité en terre, c'est l'une des cités en terre les plus importantes de l'Amérique précolombienne qui est menacée. Donc ça c'est au Pérou, mais chez nous, qu'en est-il ? Aujourd'hui, c'est Muriel Filly, archéologue du Centre départemental, qui vient nous expliquer ce qu'il en est. Sa spécialité, c'est la proto-histoire, juste avant l'histoire. L'âge du bronze en particulier, qui commence chez nous vers moins 2300. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Alors, l'archéologie constate déjà en effet des effets du changement climatique dans le Finistère ?
Alors oui, on constate le changement climatique via l'érosion du littoral et le recul des traits de côte. Et la Bretagne, c'est un observatoire de premier ordre pour observer en fait ces questions d'érosion, puisqu'il y a un tiers du linéaire national côtier qui se trouve en Bretagne.
2200 km, je crois.
Ouais, il y a deux
si
manières de calculer.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Si on calcule tout précisément, c'est vrai que c'est énorme.
Donc on va voir des sites archéologiques apparaître sur les côtes, mais aussi disparaître et parfois très très vite.
Et apparaître parce que quoi ? Par exemple, une falaise s'effondre et... Non, enfin quand même pas. Il y a quelque chose qui sort des sédiments
Ah ouais, non, c'est de l'effondrement. Hein. C'est le côté de la falaise qui s'effondre et puis ça peut aller très très vite. Et s'il y a un site archéologique, il bascule dans la mer.
Mais quand ils apparaissent, c'est comment, en fait ?
Ça va vite.
Hein ?
Ça va vite.
Ouais, mais ils apparaissent comment ? Enfin, je veux dire, concrètement.
Bah, par exemple, je pense à un cimetière du côté de Santec, un cimetière de l'âge du bronze, où il y a des coffres, en fait, sur un petit îlot, et il y a des coffres qui vont... Il y a des dalles, en fait, qui vont tomber dans la mer, même.
Oui, il est plutôt en train de disparaître, en l'occurrence.
Oui.
Ouais, d'accord. Donc, vous avez... Et vous, le Centre départemental d'archéologie, vous avez été sollicité dans ce cadre-là ? Qu'est-ce qu'il y a eu, par exemple ?
Alors, on est de plus en plus sollicité sur ces questions, parce que c'est vrai qu'on est... On est proche géographiquement en fait, donc nous archéologues du conseil départemental, on peut aller très très vite sur place. Et là on avait appelé après la tempête Kiran par exemple, il y avait des poteries de l'âge du bronze qui tombaient sur la plage à Kerlouan. Donc c'est un promeneur qui les a ramassées, il s'est rendu compte que c'était vieux et puis nous a appelé quoi.
Elles étaient sous terre, on en connaissait l'existence en fait ou...
Non, on ne connaissait pas ça, c'était poteries du bronze moyen qui ont dégouliné en fait sur la plage et que lui a ramassé et puis...
Ah oui, elles étaient ensevelies et elles ont été découvertes par la tempête. Quoi.
Oui, c'est ça.
Ça alors. Et donc, dans ces cas-là, ouais, on vous appelle pourquoi ? Pour regarder de quoi il s'agit, les mettre en sécurité, c'est ça ? Enfin...
Bah, nous, on va venir le plus vite possible pour documenter, en fait. Le but, on ne va pas pouvoir tout sauver, donc le but, c'est de documenter tout ce qu'on peut, comme on peut. Ah, mais on est obligé de prioriser aussi.
Est-ce qu'il y a des sites que vous fouillez, enfin sur lesquels vous travaillez, qui sont attaqués là par je sais pas, l'érosion justement ou des submersions marines des...
Bah, du coup, en fait, moi en ce moment, c'est vrai que je m'intéresse dans ce cas-là à ces sites-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir nos programmes de recherche à des endroits, on va essayer d'aller à l'opportunité. En fait, s'il y a un site de l'âge du bronze qui tombe, bon, voilà, je vais aller plus spécifiquement m'intéresser à celui-là.
D'accord, mais ce n'était pas des sites, par exemple, je ne sais pas si vous en avez des sites en bord de mer au CDA que vous étudiez, pas vraiment en fait, c'est ça hein.
Bah, souvent on fait du préventif, donc c'est là où il y a plus de l'aménagement, donc non, ce n'est pas tout de suite en bord de mer. Quoi.
qu'est-ce qu'on craint en fait le plus et qu'est-ce qu'on voit concrètement?
En gros, on redoute une accélération de l'érosion, donc des sites altérés, des sites détruits, et puis surtout l'ampleur en fait. On craint d'être dépassé par l'ampleur et de ne pas pouvoir répondre si la population nous appelle tous les trois jours et qu'il y a des sites partout, de ne pas pouvoir intervenir partout en fait.
Et les impacts sinon, à part la submersion, les poteries qui tombent dans la mer, qu'est-ce que ça peut être sinon?
Ça va être au niveau de nos conditions de travail aussi, parce que du coup, c'est pas prévisible en fait. On sait pas forcément encore pour l'instant où est-ce que ça va tomber en premier. Donc nous, on va devoir intervenir vite, donc toujours dans l'urgence, avec pas beaucoup de moyens, quand c'est pas prévu. On doit y aller à la journée, parfois tout de suite. Et puis, il n'y a pas de fonds de financement en fait spécifique pour ça. C'est pas comme l'archéologie préventive où c'est soit la redevance ou l'aménageur qui va payer les fouilles, en fait, où c'est un système bien rodé, où tout est prévu. Là, on ne va pas faire payer la mer, donc on n'a pas de source de financement, il n'y a pas de source de financement propre pour l'instant, pour ces questions.
Et même sur des sites existants, enfin, qu'on connaît, il n'y a pas moyen de mieux les préserver, par exemple?
Alors, il y a donc la DRAC, le Service Régional d'Archéologie de Bretagne, ils sont basés à Rennes, et là, ils ont choisi de lancer un programme pour avoir des cartes de prévisibilité, pour essayer d'intervenir à l'avance, en fait. Peut-être de lancer des programmes de fouilles plutôt sur ces zones-là. Mais pour ça, il faut savoir lesquelles sont le plus en danger et où est-ce qu'il y a le plus gros potentiel scientifique. Donc, ils ont confié cette question au projet Alerte 2. Donc, c'est un projet géré par le CNRS. Il y avait Alerte 1 qui était sorti il y a quelques années. Et là, il y a le projet Alerte 2 géré par Marie Van Der et Henri Gondois. Donc, ils sont basés à Rennes. Et donc, via ce projet-là... L'objectif, ça va être de rendre des cartes de prévisibilité en fait, à la DRAC pour qu'eux puissent ensuite décider, mettre peut-être plus d'action sur certains sites.
DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, donc on est sur l'ensemble de la Bretagne, c'est ça?
Oui.
Et là, je ne sais même pas quel est le linéaire côtier global. On est à plus de 2200, évidemment, puisque 2200 km, c'est juste pour le Finistère. Est-ce qu'il y a eu d'autres... on a des gros sites quand même en bord de mer. Je pense à la grotte de Ménez-Drégrand, qui est bien, bien antérieure à l'âge du bronze. Mais est-ce que ça, on voit déjà des menaces concrètes sur ces sites-là ou...
Alors, Ménez-Drégrand avait été beaucoup fouillé. Hein, le programme de fouilles est terminé maintenant, si on est sur les postes fouilles. Mais en fait, ça va arriver. Ça va forcément arriver, ouais.
Et puis, il y avait des mégalithes aussi en bord de mer. Enfin, il y en a beaucoup chez nous.
Ouais, c'est ce qui permet de voir cette montée. En fait, c'est les mégalithes, ça, on les voit. C'est des sites qu'on voit visuellement dans le paysage, en fait. Et donc, il y en a beaucoup. À Loctudy, par exemple, il y a un menhir qui est sous l'eau. Il y en a d'autres à Plouguerneau. Des allées couvertes en fait qui sont sous l'eau, qu'on peut voir seulement quand il y a des très très grandes marées en fait, alors qu'elles n'étaient pas du tout là. Enfin, la mer était peut-être à 2 km plus loin à cette époque-là, quoi.
Et c'était une autre époque, et c'est vrai que si ça monte, et ça monte beaucoup plus vite, il y a des sites de bord de mer qui sont actuellement visibles et accessibles qui vont disparaître, enfin qui vont être moins accessibles. Sinon, on sait un peu quels sont les endroits potentiellement les plus fragiles. Enfin, là, je pense peut-être en termes de géomorphologie. Enfin, je sais pas comment dire.
Il y a tout le littoral et puis les zones qui sont plus exposées au vent, mais aussi surtout les zones où il y a de la pression anthropique en fait. Donc où il y a des aménagements humains ou des zones d'attrait touristique aussi en fait. On va changer en fait, on va accélérer le changement en faisant des constructions quoi. Donc, par exemple, pour la Bretagne, sur le littoral nord, il y a tout le Finistère nord qui va jusqu'au Trégor. Ça, c'est une des zones qui avait été identifiée comme une zone en danger. Pour le sud, c'est tout de la côte sud du Morbihan jusqu'à Pamar, par exemple. Voilà, c'est les zones où je crois qu'ils calculaient le plus d'impact au niveau des tempêtes sur le littoral en Bretagne.
On peut réécouter l'émission qu'on a faite hein, sur les risques littoraux, ça fait quelques jours, donc vous allez sur le site internet de Transistor. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour limiter les dégâts?
Alors c'est vrai qu'on ne va pas arrêter l'érosion, il y a eu des moments où on a essayé de mettre des choses, enfin les communes ont essayé de mettre des choses en place et ça ne marche pas au final. Hein. Donc,
oui, il
n'y
a pas
possible.
Les digues et tout ça, ça marche pendant un certain temps, puis après...
Ouais, puis ça va juste dévier, en fait, donc ça va le faire aller à un autre endroit, en fait, et donc c'est un phénomène inéluctable, donc il faut faire avec. Donc on va sauver ce qui peut l'être, et on va devoir mettre des priorités, et puis on va documenter surtout. En fait, le but, c'est de documenter avant destruction, quoi. en priorisant.
Avoir la fameuse carte, quoi.
Mmh. Avoir la fameuse carte, oui. Bah, mmh. Ça va bien changer la donne, oui. Ouais. Et puis, sur le long terme aussi, c'est vrai que c'est d'agir en amont, en fait. S'il y a des programmes de fouilles programmées, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller fouiller un site qui nous intéresse au milieu de la Bretagne, bon, il y en a quand même, hein, parce qu'il faut qu'on fouille partout, mais peut-être mettre certains programmes sur ces sites-là qui vont être détruits plus vite, en fait, que certains autres. Et puis, s'accepter qu'on fait ce qu'on peut aussi. Et qu'on sauve le site en fonction de la vulnérabilité, d'un potentiel scientifique. Donc voilà, c'est assez accepté en fait qu'on fait comme on peut, quoi.
Donc vous avez ce programme, enfin vous êtes responsable du programme localement. Enfin, qu'est-ce que vous devez faire concrètement, vous, Muriel Philly, du CDA?
Du coup, au Centre d'archéologie, on était de plus en plus appelés pour ces questions parce que on est quand même bien identifié dans la population du Finistère. Ils savent où nous trouver, on est accessible. Et voilà, moi j'y allais. Comme je faisais un petit peu moins de préventif en ce moment, c'était moi en fait qui prenais l'appel et puis qui allait plus facilement sur le terrain. Donc on a lancé un programme en partenariat avec la DRAC. Donc c'est-à-dire que maintenant on a des fonds un peu plus spécifiques pour ces questions-là, pour aller très vite. Hein. Comme on est archéologue territoriaux, on est sur place, on peut aller plus vite. Pour la Bretagne, il y a nos collègues dans le Morbihan aussi. On a mis en place ce type de programme. On est les deux seuls services de collectivité, donc c'est vrai que on est sur place, quoi. Ça va bien plus vite.
Et donc, vous faites quoi alors? Comment ça se passe concrètement?
Quand on reçoit l'information, on essaye de voir s'il y a déjà un site qui était connu à cet endroit-là. Donc, sur les cartes archéologiques, on regarde. Si possible, on essaye de définir si c'est vraiment un site archéologique. Parfois, ce n'est pas des sites archéologiques, en fait, c'est autre chose. Donc, ça ne va pas nous concerner, nous, mais d'autres services.
Oui, sur des squelettes, par exemple.
On en a eu souvent. On travaille souvent avec la gendarmerie pour les squelettes, donc on intervient avec eux. Donc ça, c'est nous. Enfin, on va aussi avec eux sur place. Donc ça arrive, pareil, de plus en plus souvent aussi. Puis en Bretagne, comme les terres sont très acides, les squelettes, en fait, sont surtout conservés dans les dunes. Donc c'est super intéressant, au final.
Oui, c'est assez rare, hein, finalement, de trouver des os, vieux os chez nous.
Voilà, sauf sur, c'est dans la dune, en fait, que ça sort...
Les dunes, elles bougent, alors donc j'imagine qu'il y a des...
Les dunes, elles bougent. Et ça, c'est vrai que les gens, quand ils voient un bout de squelette qui sort sur la plage, là, ils appellent et on essaie d'intervenir très très vite aussi, quoi.
Oui, parce que sinon, c'est pas forcément évident à identifier un vestige archéologique dans un... Enfin, qui ressort. Bon, les poteries, à la limite, si elles sont entières, enfin, si c'est un morceau...
Y a quand même beaucoup de Finistériens qui s'intéressent à l'archéologie, donc qui ont quelques notions. Parfois, ils nous demandent, après, on répond, si c'est pas... Ils demandent, et puis si ça ne nous concerne pas, on leur dit, ou si c'est pas... on essaye d'aller quand même, si possible, sur place, quoi. Et... Alors, on va pas tout fouiller, mais on va au moins documenter, quoi. Faire des relevés, des photos, enregistrer, en fait, là. Faire un inventaire du site, quoi.
Vous arrivez quand même pas avec, tout de suite avec le tractopelle, ou... comment ça peut se passer?
Non, dans ces endroits-là, on peut pas, donc on y va avec l'appareil photo, le sac à dos, des choses pour faire des relevés, des mesures, en fait, c'est... On revient à une, enfin c'est plus là une archéologie plus basique. Après, avec les drones, on peut faire des relevés aussi. Ça peut bien aider de faire des relevés drones en photogrammétrie, par exemple.
C'est quoi la photogrammétrie?
Alors la photogrammétrie, c'est quand avec un appareil photo sur un drone, on va faire plein de photos de tous les côtés, et du coup, ça va permettre de reconstituer la forme du vestige, un mur, par exemple, quoi. Du coup, ça va donner un plan du mur, alors que si on devait tout faire à la main, ça prendrait bien plus de temps.
Mmh. Et c'est quoi la zone, comment est-ce qu'on peut déterminer, quand on arrive sur un site comme ça, la surface à photogrammétrie maîtriser, à examiner en tout cas?
On regarde, c'est visuel, qu'est-ce qui tombe à la mer, en fait.
Par exemple, dans le cas des poteries dont vous parliez, c'était des poteries,
C'était des poteries, et là, quand on est arrivé, en fait, tout était tombé, donc le promeneur, en fait, avait tout ramassé. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'archéologie. Maintenant, c'est devenu un prospecteur aussi. Donc, il va se promener souvent du côté de Kerlouan, il regarde. Et du coup, la poterie a été ramenée ici, nettoyée.
Elle était entière, à peu près.
Ma collègue Sarah Mologue a pu remonter une partie de la poterie quand même.
Il y en avait une seule, alors?
Il y en avait deux, je crois. Mm-hmm. Ouais, du bronze moyen. Donc,
donc là, on imagine que ce n'est pas énorme comme site, c'est ça? On se dit qu'on va regarder quoi? Combien de mètres carrés
On ne veut pas accélérer non plus l'érosion. C'est ça, en fait, c'est des choix difficiles à faire. Pour l'instant, on documente ce qui tombe, en fait. On va pas aller, sauf si c'est des squelettes et une tombe, là, on va demander une autorisation de fouille pour ouvrir un petit peu plus, pour fouiller au moins le coffre et sortir le squelette voilà, de manière réglementaire et en faisant une fouille classique. Mais sinon, non, on documente ce qui tombe, en fait, pour l'instant.
Et dans le cas des poteries, alors qu'est-ce qu'on a pu avoir comme information, vite fait, en tout cas
alors c'est un rapport en cours, mais ça permet de savoir que déjà il y avait des populations du bronze moyen qui étaient à cet endroit-là.
Donc c'est quelle époque? C'est quoi, moins 1000 et quelques, c'est ça?
Oui, oui, peut-être vers 1400.
Allez.
avant notre ère.
Ouais. Et c'était à Kerlouan, c'est ça, hein?
Oui, là c'était à Kerlouan, oui. Et ça peut arriver à Plouguerneau aussi. C'est arrivé qu'un promeneur voit des choses qui tombaient dans la mer, en fait. Et, parfois, les gens ne comprennent pas tout de suite c'est de l'archéologie. Donc, il y a des fois, on nous prévient quelques années après.
Ah oui, c'est arrivé.
Oui, c'est arrivé. Pour du mobilier, en fait, la personne n'a pas forcément compris tout de suite que c'était archéologique, en fait.
Mais elle avait ramassé les objets.
Oui, elle avait ramassé les objets. Et c'est en nous voyant sur un chantier où elle était passée. Et puis, d'un coup, elle dit, ah ben, voilà, vous trouvez ça? Ben, oula, je crois que j'ai quelque chose pour vous, en fait. Et du coup, on a pu intervenir et faire une petite opération de sondage à cet endroit-là.
Mais quand c'est une infrastructure, justement un mur, en l'occurrence, ça peut être tout un bâtiment, ça peut être énorme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, pour avoir une idée? Est-ce que là, les drones peuvent servir?
Alors, pareil, c'est le service régional d'archéologie. Ils essayent de lancer de plus en plus de programmes de géophysique, en fait. Donc, quand c'est possible d'amener à cet endroit-là... Donc, c'est une machine, en fait, qui envoie des signaux dans le sol, et, comme des radars, et puis donc ça renvoie un signal.
C'est un peu le LIDAR, c'est ça, non?
Alors, le LIDAR, c'est par avion, mais donc c'est le même. Voilà, c'est un principe où on envoie un signal. Donc, il y a des signaux électriques, il y a différents moyens. Et donc, ils essayent d'en faire de plus en plus pour avoir une idée de l'ampleur du site, pour savoir justement qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qui va tomber à l'eau. Et...
Donc, ils détectent les variations du relief, là, je suppose. Enfin, c'est ça.
S'il y a un mur, par exemple, donc ça peut faire un plan de bâtiment, quoi. Le signal renvoyé par un mur va être différent du signal renvoyé par un creux, quoi.
Et là, c'est arrivé les plans de bâtiment ou les...
Non, pas encore. C'est plein de projets en cours. En fait, c'est des projets qui commencent parce que c'était pas vraiment pris en considération avant.
Il y a combien de projets en cours, là? En ce qui vous concerne, vous, le CDA, en tout cas
Nous, là, on a ce grand projet qui nous fait intervenir dans l'urgence. Au niveau du SRA de Bretagne, il y a ces cartes de prévisibilité. Donc, il y a Alerte 2 qui recommence à travailler sur ces questions aussi. Après, il y a l'IEM, l'Institut universitaire de la mer à Plouzané, de l'UBO. Il y a un programme qui s'appelle Armérie, où ils travaillent aussi sur les changements climatiques, les populations littorales. Donc, c'est vrai qu'il y a plein d'acteurs, en fait, qui s'intéressent à cette question.
Mais il n'y a pas, voilà, pour l'instant, vous ne pouvez pas dire, on va avoir, en fait, par définition, vous ne pouvez pas dire, on va avoir une dizaine de sites, on va pouvoir s'occuper d'une dizaine de sites, ou... Vous avez un rythme, vous êtes quand même fixé un objectif ou...
Non, c'est au jour le jour. Quoi.
Ah ouais. Et donc, mais comment est-ce que vous pouvez déterminer les moyens? Est-ce que, par exemple, vous pouvez décider de faire, un prélèvement, une analyse génétique quel type d'examen, en fait, vous pouvez décider de faire?
Alors ça coûterait pas mal d'argent. Ah donc, ça va être, il y a la question du financement, parce que... Là, pour l'instant, moi, je vais juste avec mon sac à dos, mon appareil photo, faire les premiers relevés, en fait. Et en fonction de ce qu'on trouve, j'appelle le service régional d'archéologie. Et là, on se met d'accord, en fait, sur la procédure, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait. Parce que c'est eux qui, au final, ont le pouvoir réglementaire, en fait, de décider ce qui va être fait derrière. Nous, on va... on est les premiers sur place, en fait, pour sauver, documenter l'information et porter à connaissance, en fait... l'information.
Et sur le terrain, combien de temps vous passez, en gros, sur un site comme ça, découvert?
Ça peut être une journée. Après, parfois, il y a des opérations de sondage qui sont lancées, donc ça peut être quelques jours.
Quel genre de sondage?
Par exemple, il y a des objets de l'âge du bronze qui étaient sortis sur le littoral, et donc on a lancé une petite prospection de sondage pour aller les fouiller, quoi. Donc là, ça nous a pris 2 jours.
Et il n'y a pas de matériel trop spécifique, là? Enfin, toujours pas de tractopelle, j'imagine.
Non, c'est des zones protégées, en plus, souvent fragiles et protégées, donc non, ce sera à la main dans ces cas-là.
Et après, combien de temps, quel est le délai, quelles sont les suites des procédures quand on a envoyé comme ça un avis, quand on a demandé un avis du service régional d'archéologie
Ça marche très bien. Si c'est urgent, dans la journée, on va les appeler, et dans la journée, on va essayer de se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire. Mais voilà, c'est toujours pareil, on priorise, quoi. C'est vrai que si les gens nous appellent pour 10 sites par jour, on pourra aller en voir qu'un ou deux, quoi. C'est pas possible, en fait, de tout sauver.
Et si c'était vraiment un site, là, on voit majeur, ça s'est sans doute pas encore produit, mais qu'est-ce qui se produirait ?
J'imagine que ce serait possible de lancer des opérations de sondage. C'est comme une petite fouille programmée, quoi, assez rapidement.
On creuse, quoi, en fait, là.
Ben, un peu, ouais. Après, il faut avoir l'autorisation du propriétaire aussi. Alors, souvent, c'est le conservatoire du littoral, donc c'est OK pour eux, mais...
Ouais, c'est ça. Comment ils se positionnent, a priori, quand c'est de l'archéologie, ils sont...
Ben, donc, il faut qu'on fasse attention, après, aux espèces protégées. Mais c'est vrai que quand nous, on a fouillé sur Plouguerneau, ben, il y avait les gestionnaires du littoral, en fait, que ce soit ceux du département aux espaces naturels et sensibles, ou ceux de la communauté de communes du Pays des Abers. En fait, ils sont toujours avec nous. Ils viennent toujours avec nous... Et en plus, ils ont pris goût aux fouilles, donc je crois qu'ils aiment bien. Comme ça, ils sont là pour nous conseiller aussi au niveau des plantes. Donc on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Quoi. On essaye de trouver, de faire le mieux possible en abîmant le moins possible.
Et le fait que vous soyez proto-historienne, c'était un hasard, ça s'est trouvé comme ça, ou c'est parce que c'est plutôt de la proto-histoire qu'on trouve en zone littorale, dans ces conditions en tout cas, dans ces circonstances ?
Non, je crois que c'était un hasard, je crois. Et après, si on va trouver de l'Antiquité, bah, c'est un de mes autres...
Bah, Douarnenez, voilà. Ouais, par exemple.
Voilà, bah, là, c'est mes... En fait, on se partage. C'est-à-dire que je vais peut-être aller en premier, mais après, selon la datation, c'est un collègue spécialiste en fait, qui va venir plus spécifiquement, ouais.
Ce qu'on a trouvé, par exemple, récemment, encore, je crois, à Douarnenez, on trouve régulièrement des pièces intéressantes. C'est pareil, c'est un effet, on peut dire que c'est un effet du changement climatique ou...
Oui, oui.
Ouais, ouais.
Et après, c'est vrai qu'il bah, y a des zones où il y a des populations, enfin, la population est peut-être plus sensibilisée, donc ils vont peut-être prévenir plus facilement aussi, en fait.
Oui, ils connaissent à force, ouais.
Oui.
Ouais. On sait, ouais, sinon, d'autres endroits où potentiellement il y aurait là des sites intéressants et que finalement, on aimerait bien que le changement climatique s'active. J'exagère hein, quand je dis ça, mais...
Bah non, parce que nous, on préfère que le site, à la rigueur, ne pas le fouiller. On préférait que le site soit protégé pour les archéologues du futur, peut-être. En fait, nous, on va fouiller quand...
Ouais, vous préférez les bonnes conditions de fouille, en fait, c'est ça?
Bah oui, oui, puis s'il n'y a pas de raison de fouiller le site, il est peut-être aussi bien en terre, parfois, pour protéger, en fait. Ça ne sert à rien de tout fouiller. Là, on fouille parce qu'on n'a pas le choix. En fait, c'est comme le préventif, ça va être détruit, donc on fouille. Il y a quand même quelques programmes d'archéologie programmés où on choisit, scientifiquement, d'aller à des endroits, mais c'est plus la majorité des programmes maintenant.
Et alors, si on est un promeneur là sur la plage et que on découvre des objets comme ça qu'on soupçonne être de l'archéologie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que par exemple, le fait de les ramasser, moi, je me dis, ça me choque un peu, parce que on dit toujours, il faut laisser les objets dans leur situation.
Ouais. Alors, bah là, la personne a ramassé parce que là, tout était tombé sur la plage. C'est-à-dire qu'à la prochaine marée, en fait, souvent quand ça arrive, la prochaine marée, tout part, quoi.
Donc, ah oui. C'est à ce moment-là. C'était vraiment, il fallait ramasser là.
Il fallait ramasser. Oui. Et sinon, non. Dans l'idéal, on ramasse pas, mais sauf si à la prochaine marée, ça va être enlevé. Mais par contre, c'est faire plein de photos, si possible avec une mire, en fait, enfin quelque chose qui montre l'échelle. Mm-hmm. Faire plein de photos, bien noter l'endroit aussi, et envoyer un mail. Alors nous, on a le mail archéologie@finistère.fr au département. Et il y a Alerte aussi qui avait lancé quelque temps une application pour gérer ça. Mais là, en ce moment, je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un derrière. Parce que voilà, il faut un poste en fait pour après gérer
sûr,
ça derrière.
Une personne, mais... Payé, ok. Donc voilà, on touche aux objets si vraiment on voit qu'ils vont être enlevés par la marée.
Bah, dans l'idéal, ouais. on appelle tout de suite le centre d'archéologie si on a son téléphone avec soi, sans rien toucher. Et là, nous, on peut peut-être guider aussi... Parce que si je dis aux gens ramasser, le risque c'est qu'ils ramassent vraiment. Donc non, enfin qu'ils ramassent tout et trop de choses en fait. Donc non. Mieux vaut appeler tout de suite en fait, faire des photos déjà et appeler tout de suite, bien noter l'emplacement quoi.
Et on sait sinon, alors c'est vrai qu'il y a des découvertes dans le Finistère des sites archéologiques qui témoignent que on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais que le climat a changé, hein, notamment, bah, c'est vrai qu'il y a des sites mégalithiques, je crois, qui sont sous la mer quasiment, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a à citer, par exemple ?
Il y a une allée couverte à Plouescat, au Carnic, par exemple, qui est sur la plage, en fait, qui est recouverte.
On la voit de temps en temps, ouais,
c'est
ça.
C'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a un menhir à Plouguerneau aussi, qui est assez connu, à Ménozard. Il y a à Tréfiagat aussi. Enfin, c'est voilà. Je crois que il y a pas mal de communes qui ont leur menhir sous l'eau.
Et pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas sous l'eau à l'époque alors ?
Parce que le niveau de la mer était bien plus loin en fait.
Et pourquoi ?
Pourquoi ? Réchauffement climatique, une accélération en fait des changements climatiques dû aux projets humains, dû aux aménagements. C'est-à-dire qu'il y a des cycles naturels, mais là il y a une accélération humaine en fait qui fait que c'est plus naturel quoi et que ça va très très vite.
Oui, c'est ça. Oui, parce que ces menhirs, voilà, ces menhirs, ils ont été faits à une époque où c'était la période encore glaciaire. Enfin, c'était pas encore tout à fait terminé. Ça se réchauffait lentement.
Oui, la mer était bien plus loin.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Alors que maintenant, elle monte un peu beaucoup plus vite, quoi.
Oui.
Oui, c'est ça, en fait, la différence avec le avant. Et c'est vrai, le climat a toujours changé, mais pas aussi vite. Quelque chose à ajouter, Muriel ? Non ?
Non, bah, c'est vrai qu'après, voilà, ce sont les promeneurs, les gens qui peuvent nous... qui peuvent avoir regardé, en fait, pendant leur promenade, regarder sur le côté de la côte, en fait. Et pensez à nous appeler, quoi.
Merci beaucoup au Centre départemental d'archéologie Muriel. Et on pourra réécouter cette émission, comme toutes les autres, sur le site internet de Transistor. À bientôt.
À bientôt.